Bonjour, bonjour Yves, au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition en vous rappelant, apprenant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent. Et notre générique est bien évidemment une musique de film, en l'espèce celle d'une petite merveille sucrée réalisée en 1962 par Blake Edwards, ça s'appelait... En anglais, c'est mieux « Breakfast at Tiffany's ». Audrey Byrne et George Peeple en étaient les rôles principaux. Peepard, c'est mieux. Et à la baguette, eh bien, il y avait le regretté Henry Mancini et ce Moon River qui lui valut un Oscar et plein de reprises plus ou moins bienvenues. Ce jour de 24 notes secondes, eh bien, nous allons plutôt rester dans le cinéma contemporain puisque nous allons évoquer la carrière relativement courte mais ô combien brillante d'un cinéaste né le 30 juillet 1900. 78, quelque part à Londres, le dénommé Christopher Nolan, associé depuis à des super productions bien connues, mais qui se distingue par une puissance visuelle et narrative assez exceptionnelle, surtout dans les genres où il s'illustre. Christopher Nolan, donc né à Londres et qui, dès l'âge de 7 ans, en vrai futur cinéaste, eh bien, commence à tourner des films en Super 8 avec des figurines et son papa dans un des rôles principaux. Il découvre à cet âge-là, alors que moi j'étais déjà très grand, Star Wars 1977, ai-je besoin de le préciser? Et dès lors, puisque sa vie se partagera entre Londres et Chicago, puisque sa maman est américaine et son papa anglais, eh bien dès lors, Christopher Nolan n'aura que de cesse de devenir un cinéaste. Voilà, depuis tout petit, l'homme ne voulait faire que cela, ne consacrait sa vie à que cela. Dans ses années d'études, eh bien, il réalisera quelques courts-métrages. Il projettera des films en 35 mm, en faisant payer l'entrée pour produire ses propres courts-métrages. Bref, un homme absolument dévoué à ce septième art, mais qui mettra malgré la carrière prestigieuse qu'on lui connaît maintenant, un certain temps avant d'entrer dans la carrière. Comme je ne veux pas être trop bavard, on citera quand même son premier long métrage intitulé Following, tourné en 1998 pour 3000 livres, quand on voit ce que coûtent désormais ses films. Le second, Memento, tourné en 2000, sera très remarqué. C'est l'histoire d'un homme atteint d'une amnésie entérograde, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'il oublie d'un instant l'autre tout ce qu'il a fait. Du coup, il est obligé de tout noter sur des carnets, des tatouages, etc. Il se trouve embrigadé dans une histoire de meurtre assez confondante, un film réalisé avec un tel brio qu'il permet à Christopher Nolan d'enchaîner sur Insomnia, un film tourné en 2002, pardonnez-moi, avec de grosses vedettes, puisqu'il n'y avait rien moins qu'Al Pacino, Robin Williams et Hilary Swank dans les rôles principaux. Le tout se passait quelque part en Alaska. Et puis, ensuite, et vu ses deux précédents succès, eh bien, la Warner Bros. Propose à Christopher Nolan de commencer le tournage d'une trilogie inspirée d'un homme qui se prend pour une chauve-souris. Vous voyez de qui je veux parler? Allez, on écoute un extrait de la bande originale de Batman Begins. Elle est signée James Newton Howard dans 24 notes secondes. Thank you. Un extrait de la bande originale sombre et tourmentée de Batman Begins, un film de Christopher Nolan tourné en 2003 et qui va être le début d'une trilogie, mais on va en reparler. Donc ce qu'on appelle un reboot, c'est-à-dire qu'on reprend un personnage, en l'espèce un super-héros, Batman, qui a déjà été utilisé maintes fois à la télévision, au cinéma, et notamment au cinéma. Eh bien, il y avait déjà deux ou trois, je ne sais plus, films de Tim Burton. Et dans le Batman Begins de Christopher Nolan, eh bien, c'est Christian Bale, un acteur qu'on n'aurait pas forcément imaginé, un super-héros, qui reprend le rôle de l'homme chauve-souris. À ses côtés, il y a Michael Caine, qu'on va retrouver dans nombre de films de Christopher Nolan, sinon dans tous, Liam Neeson, Gary Oldman, Morgan Freeman, un film donc très très sombre qui est loin de l'imagerie un peu naïve et parfois grotesque, mais dans le bon sens du terme, de Tim Burton, et qui va populariser, alors on pourra le regretter puisque maintenant on en a un peu marre, la vogue de ces super-héros mais qui n'ont pas l'air contents de leur sort, les gars. Avant de s'attaquer au deuxième volet de la trilogie, eh bien Christopher Nolan, aidé de son frère Jonathan, ils sont trois frères et Christopher et Jonathan ont largement collaboré sur tous les films du premier, eh bien va adapter à l'écran tout à fait autre chose, un roman de Christopher Priest qui raconte la rivalité de deux prestidigitateurs au 19e siècle avec chacun leur truc, et puis à la fin on découvrira que, mais je ne vais pas vous spoiler quand même, le principal truc dont on ne comprend pas comment il fonctionne, sinon à la fin. Dans les rôles principaux de ce film, eh bien, il y avait la délicieuse Scarlett Johansson, Hugh Jackman et à nouveau Christian Bale, donc devant la caméra de Nolan. La bande originale de ce film, elle est signée, alors je dois le dire, d'un total inconnu pour moi. L'homme s'appelle David Julian. On écoute un extrait de sa bande originale pour Le Prestige, un film de Christopher Nolan dans 24 notes secours. Un extrait, comment dire, brumeux, somnolent de la bande originale du Prestige, un film de Christopher Nolan qui mettait aux prises deux prestigitateurs dans le cœur du 19e siècle, hein, façon un peu steampunk, un univers bien éloigné de celui de Batman que Christopher Nolan retrouve dès 2008, puisque maintenant c'est la mode. Il s'est engagé avec Batman Begins, qui racontait les débuts, à nouveau, qui racontait les débuts de Batman, la mort de ses parents, tout ça, tout ça. Eh bien, il retrouve le personnage opposé à l'un de ses pires ennemis en 2008, le Joker, popularisé en son temps dans les films de Tim Burton par Jack Nicholson et qui est joué en l'espèce avec beaucoup de charisme par un acteur qui sera décédé en plus peu après le tournage, je dis en plus parce que ça ne fait qu'ajouter cynisme au succès commercial de la chose par Heath Ledger. L'homme recevra d'ailleurs un Oscar du meilleur second rôle à titre posthume pour un film encore plus sombre si c'est possible que Batman Begins, mais d'une virtuosité absolument époustouflante. Personne n'aura oublié la scène de hold-up du début qui a elle toute seule est une anthologie de tout ce que le cinéma peut apporter en termes de dynamique et de cinétique. On voit que Christopher Nolan, je l'ai déjà évoqué, est un cinéphile fou, qu'il a vu tout et qu'il a su digérer la chose pour en faire son propre style. Ma foi, il pourrait l'employer à des films intimistes et il l'emploie à des super productions de centaines de millions de dollars, mais il ne perd ni son âme ni sa rigueur puisque c'est un des rares cinéastes encore aujourd'hui à tourner avec de la pellicule 35 mm. Il a toujours déclaré que même si le numérique servait de diffusion à ses films, eh bien lui tenait à les enregistrer avec du vrai chimique. Et ma foi, il a bien raison, même si ça doit lui coûter horriblement cher. Mais bon, quand on fait des films et qu'on s'appelle Christopher Nolan, la pellicule, ce n'est certainement pas le plus coûteux. Allez, on écoute un extrait de la bande originale de The Dark Knight, donc le second volet de la trilogie Batman. Alors la musique, elle est signée de Hans Zimmer. Les amateurs de 24 notes secondes savent que l'homme ne fait pas partie de mes préférés, mais il va bien falloir que je m'y habitue, puisque à partir de là, eh bien, c'est lui qui va accompagner Christopher Nolan et nous donc dans 24 notes secondes. Ah bah oui, c'est John Zimmer, je vous avais prévenu, un extrait de la bande originale de The Dark Knight, un film de Christopher Nolan, avec donc Christian Bale et Heath Ledger dans les rôles principaux. Ma foi, Batman Begins avait été un gros succès commercial, alors disons que The Dark Knight sera un triomphe absolu puisque le film engrangera des centaines de millions de dollars tant en Amérique du Nord qu'à l'étranger, ce qui permet ensuite à Christopher Nolan eh bien, de signer un film qu'on pourra s'accorder comme le plus ambitieux de tous ceux qu'il a réalisé jusque-là, en tout cas le plus proche de ce qu'on va appeler l'expérimentation. Et puis aussi, alors là en toute immodestie, le plus grand film pour l'instant, je ne verrai pas la fin, donc je ne saurais pas vous dire ce qu'il en sera, mais le plus grand film du 21e siècle, puisque Inception est vraiment un film, je dirais, qui condense, qui cristallise tout ce que le 21e siècle peut avoir de complexe, d'effrayant et de redoutable, un film à tiroir dont l'intrigue porte sur le rêve, le rêve dans le rêve et le rêve dans le rêve dans le rêve. Une intrigue à plusieurs niveaux de temps, d'espace, de montage, de musique, d'atmosphère, de personnages, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. Alors on aurait pu imaginer qu'un scénario finalement aussi complexe et relativement peu compréhensible aurait pu susciter de la part des spectateurs du monde entier, nourris de films de super-héros de genre beaucoup plus simple. Moi, héros, toi, méchant. Peut-être que Inception aurait pu leur passer un peu à côté, mais ma foi, il n'en fut rien. Alors on ne sait pas si c'est le charisme de Leonardo DiCaprio, de Marion Cotillard ou de quelques autres, la beauté fabuleuse des effets spéciaux. On voyait des rues de Paris se renverser comme ça d'un clic, et puis cette malice à pouvoir vivre dans le rêve et donc à organiser le monde. Et après tout, c'est ce que fait un réalisateur, à organiser le monde tel qu'on le veut, avec un pistolet ou un fusil de la taille qu'on veut, etc. On ne sait pas. En tout cas, Inception fut aussi un très très grand succès qui rapporta, là encore, plus de 820 millions de dollars à travers le monde, rien que dans la sortie. Et la musique de Hans Zimmer, eh bien, assez curieusement et bien heureusement, peut-être à l'aune du film, elle est plutôt pas mal. Je vous propose d'en écouter le morceau emblématique. Les personnes qui ont vu Inception et qui, comme vous l'avez deviné, sont fort nombreuses, se souviendront que la toupie tourne et qu'elle va s'arrêter et que donc on va savoir que... Et à ce moment-là, la musique commence dans 24 notes secondes. J'adore le petit truc à la fin, je sais que je ne suis pas le seul. Un extrait de la bande originale d'Inception, un film de Christopher Nolan tourné en 2010, une musique de Hans Zimmer, vraiment un film absolument magnifique et magistral. Christopher Nolan fait preuve d'une inventivité assez époustouflante et d'une grande beauté à la fois, je dirais, narrative, évidemment, esthétique. Et c'est vraiment réconfortant qu'un film pareil, vraiment relativement compliqué, relativement ambitieux, ait pu rencontrer un grand succès. De même que, hélas, il faut le reconnaître, il est relativement réconfortant que le film qui clôt la trilogie de Batman n'ait pas remporté un grand succès, car il faut reconnaître, on ne sait pas pourquoi, une absence, l'abus de quelques drogues, ou on ne sait pas trop, mais en tout cas, The Dark Knight Rises, qui devait conclure en beauté une trilogie commencée avec Batman Begins et poursuivie ô combien brillamment avec The Dark Knight, se termine de façon assez lamentable, il faut le reconnaître, avec un film confus, ni fait ni à faire, où vraiment on en retiendra, hélas pour les interprètes principaux, que la mort absolument ridicule de Marion Cotillard, qui a depuis été brocardée dans nombre de mèmes sur Internet. Et ma foi, la pauvre Marion s'en est relevée, Christopher Nolan aussi s'en est relevé, le film non. Ensuite, Christopher Nolan, on n'aura pas le temps d'écouter un extrait de cette bande originale, hélas, ce sera attaqué à de la vraie science-fiction façon space opéra avec Interstellar, tourné en 2013, dans lequel il retrouve Michael Caine, qui l'aura accompagné notamment dans Inception, Matt Damon, Jessica Chastain, Matthew McConaughey, Anna Taway, bref, que des stars, pour un film très élégant, alors basé après a priori sur des postulats scientifiques crédibles, ma foi, on s'en fout. En tout cas, le film rencontra lui aussi un très très grand succès. Par contre, il est assez remarquable que jusqu'à présent, et sauf erreur de ma part, les films de Christopher Nolan, nommés pour nombre d'entre eux à des Oscars essentiellement techniques, n'aient jamais remporté le prix du meilleur film ou de la meilleure mise en scène, que sais-je, ou du meilleur réalisateur. Pour l'instant, ça n'aura pas été le cas non plus du dernier film en date de Nolan, ou plutôt des frères Nolan que j'ai évoqué tout à l'heure, un film qui, là encore, n'avait pas grand-chose à voir avec les opus précédents, puisque Dunkerque, c'est son titre, est consacré à l'évacuation des troupes anglaises, et seulement anglaises, ce qu'on reprochera d'ailleurs beaucoup aux réalisateurs, en mai 1940, acculé par l'avancée des troupes allemandes. Une armada de navires viendra de Grande-Bretagne pour sauver le maximum possible de soldats anglais. Du coup, en résulte une évocation patriotique, avec des personnages qui essaient à tout prix de gagner l'autre côte, et qu'on suit un peu façon survival. Ma foi, l'ensemble laisse relativement perplexe, à vrai dire. Et pour une fois, on sera en droit de préférer notre national Henri Verneuil, qui, dans les années 60, avait tourné avec Weekend à Zuidcot et Jean-Paul Belmondo dans le rôle principal, une évocation ô combien plus convaincante de cette évacuation de Dunkerque. On va se quitter avec cette musique qui est évidemment qu'elle est signée de Hans Zimmer dans 24 notes secondes. Thank you. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, c'est you, bye bye.